Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une toute nouvelle série. Bien que le thème n'est pas nouveau, car avant de commencer cette série concernant les anges, eh bien j'aimerais vous dire aux auditeurs et aux auditrices que vous pouvez trouver, si vous possédez Internet, moi je ne possède pas, mais je travaille pour Internet, eh bien, vous pouvez trouver, donc, sur Internet, 3xW, donc www, bibleexplique en un seul mot, .ch. Là, vous pouvez trouver toute une série intéressante sur le ciel et l'enfer, ainsi que sur les anges. En plus, vous trouverez un témoignage authentique de Marietta. Vraiment quelque chose que je vous recommande vivement. Chers amis, comme vous savez, mon très grand âge, eh bien, malgré tout, ou plutôt, parce que c'est la moindre des choses que je dois à mon Seigneur, qui m'a sauvé. C'était pas évident, car avec un père qui s'est marié 5 fois, le déroulement de mon enfance et de ma jeunesse était tellement épouvantable, malheureux et triste, que je n'ose pas vous le raconter. Mais vous comprendrez que il y a une raison pourquoi à 90 ans, pourquoi je fais ce travail. Oh, ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, uniquement par grâce. Mais j'ai dans mon cœur, âme et esprit une telle reconnaissance de ce que Jésus m'a sauvé, a fait un travail inimaginable. C'est beaucoup trop long à vous dire. Mais je crois que aussi sur Internet, vous devez pouvoir trouver mon témoignage. De toute façon, c'est parce que je ressens une telle reconnaissance que Jésus-Christ m'a racheté, que je lui ai promis de le servir jusqu'à ma mort. Ce n'est, encore une fois, pas que vous pensez que c'est par les œuvres. Absolument pas. Mais c'est par amour. Par amour pour ce qu'il a fait pour moi et, en plus, par amour pour les âmes perdues. Pour tous ceux que j'aimerais qui puissent encore venir à Jésus-Christ, pouvoir être sauvés. Sauvés de l'endroit où je ne souhaite à personne d'y aller, mais que vous puissiez tous, qu'on puisse tous se retrouver au ciel un jour. Pour moi, ça sera très bientôt. Eh bien, je vais donc commencer cette série. Et je vous dirai simplement, qui n'a jamais senti, dans les circonstances les plus difficiles de sa vie, une puissance amicale veiller sur lui, une main guidée ou une présence, on peut dire, consolatrice qui s'est penchée sur son malheur? j'ai connu cela. Et de telles expériences ne relèvent ni de l'infantilisme, ni d'un occultisme de mauvais aloi. La croyance en un ange gardien, un ange protecteur de la personne, cela s'est répandu dans de nombreuses religions. L'Église des premiers temps, déjà, partage avec la tradition juive la conviction que Dieu attribue à chaque être humain un ange. Celui-ci l'accompagne sur tous les chemins de la vie, de la naissance jusqu'à la mort, et même au-delà, jusqu'au paradis. Il y a peu, cette croyance faisait encore sourire les théologiens professionnels. Ce n'était qu'une idée enfantine, ont-ils pensé, qui n'avait rien à voir avec la révélation chrétienne. Mais on s'étonnera d'apprendre que malgré cela, un très grand nombre de nos contemporains croient avoir eux-mêmes un ange gardien. Il semble bien qu'aujourd'hui, les gens aient moins de difficultés à croire aux anges que à Dieu et à Jésus-Christ. Malheureusement pour certains, car Dieu et Jésus-Christ devraient venir à la première place. Évidemment, vous l'avez compris. La confirmation que tout être humain a un ange, c'est de la tradition biblique que je veux partir. Et je m'en tiendrai donc uniquement aux histoires que la Sainte Bible raconte au sujet des anges qui viennent en aide à l'homme et lui montrent le chemin. J'ai choisi environ 24 de ces histoires qui décrivent en des images d'une merveilleuse beauté comment un ange survient lorsque un être se trouve dans une impasse, comment des anges veillent sur lui, comment ils le protègent et lui ouvrent les yeux sur la voie qui le mènera vers la vie. Dans toutes ces histoires, il apparaît très clairement qu'il n'est pas de situation où les anges abandonneraient l'être humain à la solitude. Non, non, non. Les anges l'accompagnent sur tous les chemins et lui offrent protection et sécurité précisément là où il se sent seul, seul avec sa peur. Dans bien des conversations, j'ai entendu des gens dire que l'idée d'un ange à leur côté les avait en quelque sorte aidés à se rendre maîtres de leur existence. Lorsqu'ils étaient enfants, l'image de leur propre ange gardien leur a été d'un très grand secours. Beaucoup ont alors vécu avec lui. Cet ange, auprès d'eux, était tout aussi réel que la poupée autrefois avec laquelle ils jouaient, que l'ours en peluche qui les accompagnait dans leur sommeil. Souvent, les gens me racontent leur vie en parlant uniquement de leurs blessures. Il importe certes de regarder en face ce qui nous a fait mal, qui nous a fait tellement mal au cours de notre enfance ou plus tard. Mais je rencontre beaucoup de gens dont l'existence toute entière ne tourne plus que autour de leurs blessures. Sans cesse, de nouvelles méthodes permettent d'aborder les traumatismes de la petite enfance. Mais cette recherche constante de ce qui a pu meurtrir, cela me semble déjà maladif. Je prends alors appui sur l'idée que dans leur enfance, de tels êtres avaient aussi à leur côté un ange protecteur qui les a conduits à un lieu où reprendre un peu de souffle, voire même de guérir. Plutôt que de gratter sans cesse la blessure de ne pas être aimé, eh bien nous ferions souvent mieux de rechercher dans notre vie la marque des anges qui l'ont visité, c'est-à-dire la trace de ces influences bénéfiques, de ces influences curatives à l'œuvre dans toute vie. Et c'est elle que je découvre quand je me demande où je me suis senti bien dans mon enfance. Ce n'était pas tout à fait mon cas. Où j'ai pu m'oublier moi-même. Où je me suis tout entier absorbé dans mes jeux. J'en avais pas. Quels étaient mes lieux de prédilection? Qui ai-je fait? Quel était mon jeu préféré? J'en avais pas. Où me sentais-je tout à fait dans mon élément? Si je remonte toutes ces traces, je constaterai que je n'étais pas entièrement livré à des parents eux-mêmes malades et pathogènes, surtout mon père, mais que dès mon enfance, un ange m'a accompagné. C'est lui qui m'a permis de survivre en dépit de mes blessures terribles et de tant d'expériences de manque. C'est lui qui m'a permis de rester sain et de trouver dans la vie le chemin qui est le mien aujourd'hui. Bien entendu, en grandissant, j'ai compris que c'était Jésus qui m'a tendu la main. L'idée que tout enfant a un ange, cela peut alléger la tâche des parents. Beaucoup d'entre eux s'inquiètent souvent. Élèvent-ils, se disent-ils, est-ce que j'élève mes enfants comme il le faut? Des influences extérieures négatives ne vont-elles pas les déboyer? J'ai connu une jeune fille, il y a plus de 70 ans, fille de pasteur. Elle a fini dans un ashram aux Indes avec des voyous qui l'ont détournée du droit chemin. Et un jour, elle était tellement mal en point, bien sûr que ça a pris quelques années, qu'elle était plus qu'un squelette mourante. Et elle a été rapatriée à La Chaux-de-Fonds, c'est une ville horlogère en Suisse. Et quand son père l'a vue, j'ose pas vous dire tellement que ça, que je suis émotionné, il a eu un choc si terrible qu'il est allé au Galta, je ne sais pas si on dit comme ça en France, c'est donc tout en haut de la maison, au grenier, et il s'est pendu. Oui, il y a des histoires terribles. Les blessures que ça peut provoquer, inconsciemment parfois, ne leur causeront-elles pas des dommages irréparables un jour, comme à cette jeune fille? L'idée que tout enfant a son ange délivre les parents d'une partie de leurs soucis. En dépit de leurs limites et des défauts de leur éducation, l'enfant peut grandir sainement parce qu'un ange l'accompagne et veille sur lui. Certains enfants n'ont pas été seulement livrés enfants à un père alcoolique, malade, ou à une mère dépressive et déterminée par des jugements négatifs comme « Tu n'es bon à rien, toi, gamin. Tu n'es pour moi qu'une charge. Il aurait mieux valu que tu sois pas né. Il vaudrait bien mieux que tu ne sois pas là. » Auprès d'eux aussi, il y avait un ange qui leur ouvrait un autre espace de vie, un espace où ils se sentaient bien, où ils étaient libres de l'influence négative de leur entourage, où ils avaient l'impression d'être sauvés, sains et entiers. Rechercher les traces de cet ange peut être tout aussi salutaire que faire un travail sur la souffrance. Quand nous retrouvons celle de notre ange, nous devenons capables de le redécouvrir à nos côtés, prêt, comme jadis, à nous conduire vers la vie. Comment les anges, en étendant leurs mains protectrices, comment font-ils pour étendre leurs mains protectrices au-dessus de l'enfant, au-dessus de chaque être humain? Quel effet ils produisent sur nous? C'est ce que je voudrais décrire en me fondant uniquement sur les récits bibliques qui concernent l'apparition des anges et leur rencontre. Il ne s'agit pas de faire une exégèse de ces passages-là de la Sainte Bible, mais d'en donner une interprétation par l'image applicable à l'univers de notre propre vie. En effet, on ne peut parler des anges comme il faut autrement qu'en image, car la Sainte Bible nous en donne l'exemple. Si nous entrons dans les images bibliques, eh bien, nous apprendrons beaucoup plus sur ces anges qui nous aident. Je voudrais aussi prendre mes distances par rapport à certaines représentations abusives qui en sont données aujourd'hui. L'auteur de l'épître aux Colossiens, il met les chrétiens en garde. Il dit que personne n'aille vous en frustrer du corps du Christ en se complaisant dans d'humbles pratiques, dans un culte des anges. Celui-là donne toute son attention aux choses qu'il a vues, bouffi qu'il est d'un vain orgueil par sa pensée charnelle. Colossiens, chapitre 2, verset 18. À l'évidence, ces hérétiques contre lesquels l'Épître met en garde pratiquaient en effet un culte des anges et se sentaient comme supérieurs aux autres chrétiens qui, eux, s'en tenaient à Jésus-Christ, ce que nous devons, vous et moi, faire. Il s'agit donc ici de parler des anges uniquement dans l'esprit de la tradition chrétienne. Les anges sont des puissances spirituelles en forme de personnes. C'est vrai. Selon la doctrine de l'Église, ils sont donc plus qu'une simple image de la présence proche aimantes et salutaires de Dieu. Ces puissances possèdent une force. Elles sont chargées d'une tâche auprès des hommes. En tant que créatures spirituelles et personnalisées, les anges sont voués par nature à se mettre en rapport avec l'esprit et la personne de l'homme, de la femme, et à exercer une action sur lui, sur elle. Ils nous intéressent donc moins en tant qu'entité menant une existence propre que dans leur relation d'êtres humains, leur relation à l'être humain. Donc l'ange, vous l'avez compris, c'est le messager de Dieu et c'est par lui que Dieu instruit l'homme de sa volonté ou l'accompagne et exerce une action sur lui. L'ange peut venir à nous sous les traits d'un être humain, en rêve ou dans notre âme. Le lieu de l'expérience des anges, c'est le cœur humain. La Sainte Bible et les pères de l'Église sont persuadés que tout être humain peut voir les anges. Ces expériences font l'objet d'une description en images et l'Église rejette avec raison tout effort pour pénétrer de façon plus précise la nature et l'action des anges. Dieu se sert donc d'énergie qu'il a créée. Ce peuvent être des énergies psychiques, les forces secourables de notre âme, mais il peut aussi s'agir de l'intercession d'autres humains. Si les anges sont des créatures spirituelles, alors ils peuvent venir à nous par l'effet des forces psychiques qui leur sont propres à travers d'autres êtres humains ou bien tout simplement en rêve. Ils peuvent interpréter pour nous la vie, nous apporter assistance et même la guérison. Ainsi donc, c'est la proximité de Dieu qui se concrétise pour nous en eux. Par eux, à travers leur réalité, qui est de l'ordre de la création, eh bien c'est cette présence aimante qui m'enveloppe. C'est ainsi qu'elle devient concrète et que je peux en faire l'expérience. Je n'en suis pas réduit à simplement croire en la présence de Dieu. Elle se donne à mon expérience, par exemple, dans une pensée qui me vient tel un éclair. Selon la tradition chrétienne, il est tout à fait légitime de dire qu'un ange me l'a inspiré. La Sainte Bible parle toujours de l'ange en relation avec le rêve. Dans le rêve, un ange me parle et me transmet le message divin sous une forme concrète. Une femme m'a raconté un jour n'avoir jamais pu croire que Dieu l'aimait. Quand elle entendait dire dans un sermon ou quand elle lisait dans un livre qu'elle était la fille bien-aimée de Dieu, cela passait sur elle sans pouvoir l'atteindre, absolument comme une glace. Mais un jour elle a entendu, en rêve, une voix nette qui lui disait: tu es ma fille, ma bien-aimée. Tu as toute ma faveur. Et par ce rêve, la sainte parole de Dieu était devenue pour elle une réalité intérieure. Elle n'en était plus réduite à y croire un peu, mais elle en avait fait l'expérience. Un ange lui avait transmis ce message, et cela de telle façon qu'elle pouvait vivre cette réalité sans médiation, sans en douter. Si les anges sont bel et bien des créatures, ils peuvent venir à nous sous la forme d'entités spirituelles, ou encore, ils peuvent prendre celle d'un homme. Un être humain peut devenir pour nous un ange. Il n'est pas par nature un ange, mais il peut, dans un moment donné, en devenir un pour moi. Et c'est alors, à travers lui, que je perçois la présence et je perçois l'amour de Dieu. Une autre réalité créée, c'est la lumière intérieure qui parfois s'allume en nous, ou l'image qui monte en nous. Une autre encore, c'est la figure de l'ange qui se tient à nos côtés, celle d'une entité spirituelle rayonnante. Souvent, nous ne parvenons pas à distinguer s'il s'agit là d'images ou de visions, ou si les anges peuvent réellement être perçus par l'œil. Du reste, cela n'a pas une importance décisive, qu'il s'agisse d'images de rêve, de vision ou d'entité spirituelle, qu'il soit visible, ce sont toujours des expériences dans lesquelles l'être humain rencontre ce qui est pour lui un ange, un messager de Dieu. Avec l'ange, c'est la présence de Dieu lui-même, c'est la protection et la santé recouvrée qui lui sont données. Nous ne sommes pas obligés de croire aux anges. Ils ne sont pas la matière de notre foi. Dieu seul en est l'objet. Je répète, nous ne sommes pas obligés de croire aux anges, car ils ne sont pas la matière absolue de notre foi. C'est Dieu seul et son Fils Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui est notre objet principal. Mais, avec les anges, la foi en l'amour divin, cela peut se condenser et se concrétiser. Il est possible d'en faire même l'expérience. C'est celle d'un lien entre notre monde et le monde divin. Dans et par les anges, c'est Dieu qui pénètre notre réalité quotidienne. Et c'est pourquoi parler d'eux, cela nous fait du bien. Car Dieu, c'est aussi le totalement autre, c'est l'incompréhensible. C'est celui qui ne peut être nommé, c'est le mystère absolu qui échappera toujours à notre compréhension. À travers les anges, il nous manifeste sa proche présence de manière humaine. Il nous est donc, on peut dire, loisible de parler d'eux. Mais nous devons toujours les évoquer en rapport avec Dieu, et non pas comme le fait l'ésotérisme, par simple intérêt pour l'extraordinaire. Les anges sont les messagers de Dieu il nous renvoie à lui, il ouvre notre regard à son mystère. Ils établissent un lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Ils descendent et montent sur l'échelle de Jacob pour implanter dans nos cœurs le message divin. C'est sérieux, c'est beau. Vous savez, quand on était petit, une peluche, une poupée, ou quelques autres choses a servi à l'enfant que nous étions d'objet transitionnel qui nous a aidé à surmonter notre peur de la nuit ou des sentiments inconnus. Cet objet lui permet de se sentir protégé, en sécurité, même en l'absence de sa mère. Et bien souvent même, la peluche, la poupée, c'est un substitut de la mère qui est absente. Bien sûr, la fonction psychologique des anges, cela consiste d'une part dans une aide apportée, qui est apportée à l'édification d'un soi, et d'autre part, dans la sauvegarde du soi existant. Car l'enfant parle plutôt des anges que de Dieu. L'enfant, c'est normal, il comprendra mieux le langage de parler des anges que de Dieu le Père, de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il est peut-être plus facile pour l'adulte même, parfois, de parler des anges que de parler de Dieu, qui bien souvent semble beaucoup trop loin et trop abstrait pour être saisi par expérience. De même qu'ils font partie des réalités intérieures et extérieures, les anges relèvent du domaine intermédiaire qui relie le monde terrestre et le monde divin, qui relie le quotidien et la sphère céleste. Et c'est par la représentation mentale des anges qui sont à nos côtés que la proximité aimante et secourable de Dieu prend pour nous un caractère concret. Les anges nous amènent a priori vers un horizon qui est celui de l'expérience. On n'est pas obligé de croire en eux, je l'ai déjà dit. Les anges ont vu leur présence et ils restent dans une situation ambiguë entre l'image et la réalité. Les êtres humains qui nous aident, nous les qualifions parfois d'anges. Nous avons aussi, parfois, le sentiment obscur de la présence active en nous d'un ange qui ouvre nos yeux à la véritable réalité et maintient la cohésion de notre identité menacée souvent et qui nous accompagne sur notre chemin et nous conduit par-delà ce seuil que représente la mort, jusqu'à la lumière éternelle. Pour parler des anges avec pertinence, nous pouvons nous tourner vers la psychologie du fameux C.G. Jung. En effet, les anges apparaissent souvent chez les enfants en tant que représentation substitutive des parents absents. C'est ce que Jung nous dit. L'image de l'ange permet ainsi à l'enfant de se sentir protégé malgré cette absence. Selon Jung, l'enfant ne fait pas seulement l'expérience de la mère et du père en tant que personne réelle, mais aussi celle des images archétypiques qu'il porte en lui du père et de la mère. Ces images archétypiques sont la condition nécessaire pour que, en dépit des expériences négatives qu'il peut faire de ses parents, l'enfant puisse aussi faire zèle de la protection et de la sécurité. Ces expériences lui permettent de pressentir ce que est une mère affectueuse et attentive. En général, les enfants les concrétisent volontiers sous l'apparence des anges. Jung ne parle pas de l'existence des anges en soi, mais seulement en tant que réalité psychique. Si en effet les anges sont quelque chose, alors ils sont les médiateurs personnifiés d'un contenu inconscient qui veulent s'exprimer. Les anges communiquent à l'enfant l'expérience d'une protection plus grande que celle que ses parents peuvent lui offrir. Il lui enseigne en quelque sorte qu'il existe une autre puissance qui étend sur lui sa main tutélaire. Et cela apaise les angoisses tapies toutes au fond de son âme. Pour Jung, l'ange représente une position antagoniste à celle de la subjectivité du moi, en un élément, si vous voulez, du psychisme objectif. L'être humain n'est pas seulement un moi, mais il renferme tout un monde inconscient qui agit sur lui. De cet inconscient peuvent émaner des forces destructives qui sont capables de le pousser jusqu'à commettre des atrocités dont le fameux Troisième Reich nous offre l'exemple. Mais c'est aussi de l'inconscient que émergent les anges. Les anges qui nous communiquent un sentiment obscur de la beauté, la bonté, la sagesse et la grâce. Selon Jung, les expériences que nous faisons des abîmes et des hauteurs de la nature humaine nous autorisent à parler des anges. Ils sont donc à ses yeux des forces spirituelles directrices de l'âme. Ils sont une énergie spirituelle qui peuvent exercer sur le moi et sur la conscience de l'homme un effet salvateur. Et c'est sur cet arrière-plan de considération théologique et psychologique concernant la bonne manière de parler des anges que je me propose maintenant, demain matin Dieu voulant, de présenter quelques images de ceux-ci telles que la Sainte Bible nous les donne. Ce qui compte pour moi à cette occasion, ce n'est pas tant la nature des anges que leur mission, et avant tout le fait que sur le chemin qui nous conduit à devenir nous-mêmes, ils nous donnent les impulsions qui nous permettent d'avancer et de ne pas renoncer, de nous lever et de nous mettre en route. Et je pars aussi de l'idée que chaque être humain a vraiment son ange. Mais cet ange, je renonce à le décrire avec beaucoup de précision. Tout discours sur les anges requiert un espace d'imagination et de créativité. Il a besoin d'un lieu marqué par la confiance que donne l'expérience de cette présence proche qui peut nous qui peut même nous rendre un certain équilibre, la santé. Un tel espace de confiance fondamentale, dont la dimension atteint celle du ciel, aussi bien que Dieu lui-même, ainsi que des êtres humains, ils peuvent nous l'ouvrir. Et c'est alors, chers amis, que l'on peut parler des anges de la manière appropriée. Et il faut pour cela user tout simplement de, je pense, il faut user de notre imagination créative. Il faut pas avoir peur. Seuls celles-ci peuvent dire ce que sont vraiment les anges et comment ils apportent dans notre vie, dans votre vie, plus de lumière et de santé et d'équilibre. C'est une réalité parce que je l'ai vécu. Chers amis, nous arrêtons ici. Nous poursuivrons, comme je l'ai dit, demain matin, Dieu voulant, sur des faits authentiques qui sont et qui se trouvent dans la Sainte Bible. Nous allons terminer pour le moment par la prière. Cette prière, c'est en quelque sorte eine Anleitung. C'est pour aider ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, pour que vous puissiez mettre vos propres mots selon les circonstances de votre vie, selon le moment que vous vivez dans le présent. Donc, ensuite, je essayerai de mettre quelques chants qui sont d'un lointain temps, 1962. En ce temps-là, il n'y avait pas de CD, même pas des cassettes. Il y avait des bandes magnétiques, des appareils comme le Revox. Pour les plus fortunés, il y avait le Nagra de Koudelski, mais c'était tout autre chose qu'aujourd'hui. Et comme le temps passe et qu'il y a tellement longtemps, la sonorité, si vous voulez, les mots qui sont chantés, ne peuvent plus être aussi précis, aussi audibles que si c'était fait aujourd'hui. Évidemment, vous le comprendrez. Prions maintenant ensemble et vous pourrez donc mettre vos propres mots par la suite, après, pour faire votre prière personnelle à vous. Je t'en supplie, Seigneur, entends ma prière maintenant. C'est toi qui me l'as inspirée et confiée, et cela avant même que je ne crie vers toi. Daigne prêter attention à ma supplication. Tu ne dédaignes certes pas de me regarder, moi qui me suis égaré. C'était mon cas. Seigneur, toi qui as pitié, tu ne m'as certainement pas inspiré cette prière en vain. Tu ne me l'as pas confiée pour qu'elle ne porte pas de fruits. Tu me l'as inspiré pour que tu puisses m'exaucer. Tu m'as inspiré de demander ton aide pour que tu puisses avoir pitié de moi, pauvre pécheur. Tu m'as déjà donné les prémices de ta miséricorde. Merci pour tout l'amour que tu nous donnes. Et chers amis, maintenant, eh bien, je veux essayer de vous transmettre des chants d'autrefois. Essayons.
Mes brebis fois. Ils ont mis des épines à son front et des clous à ses poings, ses talons. Bye.